C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média, servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle de marque patrimoniale et pour m'accompagner, je suis avec Camille Poignant. Salut Camille.
Salut Thibaut, salut tout le monde. Patrimonial, ça fait un petit peu rencontre entre hommes et femmes, tu vois, genre iconique aussi, par exemple.
Ouais, non, je ne l'aurais pas vu comme ça. Patrimonial. Non, patrimonial. Alors, déjà, quel est le point commun, selon toi, entre, ou selon vous qui nous écoutez, entre Facom, Petit Bateau, Opinel, Amora, Le Coq Sportif, Pyrex, Leap, etc. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces marques?
Eh bien, je dirais que ce sont des marques françaises.
Ce sont des marques françaises, ce sont des vieilles marques françaises. Ce sont des marques qui ont plus de 100 ans. Et c'est peut-être un peu ça, une marque patrimoniale. C'est une marque ancienne. Alors, Dieu sait qu'on en a en France, hein, des marques centenaires. C'est une marque aussi qui appartient à l'inconscient collectif, qui a une très forte notoriété et puis qui est aussi attachée à l'identité d'un pays, la France, et puis souvent aussi à l'histoire industrielle d'une région. Certaines, elles sont tellement iconiques qu'elles ont même leur propre musée. On pense au musée Peugeot, on pense au musée Opinel aussi. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce matin, on parle de ces marques qui ont plus de 100 ans, un siècle, et pourtant, elles sont toujours là et pour certaines, elles sont très actives sur les réseaux sociaux.
Moi, je vais te parler d'une petite marque, d'une belle petite marque. On va voir si tu devines laquelle c'est. En 1882, en pleine épidémie du ver à soie en Ardèche, Clément Faugier, jeune homme du terroir, crée à Privas la première fabrique de marrons glacés. Bon, j'ai dit son nom. Hein.
Oui, je sais, Clément Faugier. Ouais, j'adore en plus, j'adore la crème de marron. Donc là, tu ne pouvais pas mieux tomber.
À une tradition gastronomique, il allie l'innovation et l'audace, réalisant ainsi la fabrication industrielle du marron glacé tout en conservant les qualités d'un savoir-faire artisanal. Donc là, je vais te parler forcément de cette marque iconique, hein, qu'on connaît. Alors, si on dit Clément Faugier à quelqu'un à l'autre bout de la France, il ne va peut-être pas l'identifier. Par contre, si on lui montre la boîte, mais bien sûr, je connais, j'en ai déjà mangé, ma grand-mère m'en préparait. Cette entreprise, elle est née de la transmission du savoir-faire perpétué par les enfants de la famille Faugier après Clément et qui se sont associés à la famille Boiron. Donc aujourd'hui, c'est toujours un des actionnaires, un des dirigeants, principal fournisseur de marrons de l'époque. Hein. Tu sais, à l'époque, tout était super simple. Je vais m'associer avec un vendeur de marrons, un vendeur de boîtes et paf, je peux embouteiller des marrons. Et on retrouve Clément Faugier sur Instagram. C'est presque 3000 abonnés. On voit qu'il conserve sa tonalité vintage et très gourmande. Hein. Pour commencer, tu as le packaging et les logos qui sont eux-mêmes bien vintage. C'est à cela qu'on peut identifier la marque. Donc on voit crème de marron d'Ardèche écrit en gros avec un beau contour doré, un logo rouge et blanc très identifiable et des bocs de châtaigne verte et marron sur le bas de la boîte. Tout le monde connaît cette boîte, l'a déjà vue en rayon.
Bien sûr, elle est culte.
Pour ne pas pour faire un petit cours de gastronomie, hein, les marrons, ce sont des châtaignes. Les marrons qu'on mange, ce sont des châtaignes. Voilà.
Ouais, ça, c'est ce que j'explique fréquemment à ma fille aussi.
Parce qu'un marron, c'est pas très bon, en fait. Hein. Donc voilà, les marrons glacés, ce sont des châtaignes. Ce compte, il est super lifestyle. Hein. Il y a toujours cette boîte iconique en évidence, bien sûr, qu'on reconnaît. Et puis, on a toujours un peu des couleurs de saison qui ressortent très bien et on voit bien sûr donc toujours la boîte sur une belle photo lifestyle avec des produits, avec une recette, et on voit aussi une série de publicités néo vintage, hein, qui sont sorties l'an dernier, qui sont assez cool, ces séries d'affiches qu'auraient pu sortir dans les années 80-90. Voilà, très joli, le compte de Clément Faugier.
Voilà, je suis très content qu'on ait choisi ce sujet autour des marques patrimoniales parce que je trouve ça fascinant. Comment raconter son histoire, comment rester fraîche malgré le poids des années, plus de 100 ans ou plus de 150 ans, comment maintenir aussi un storytelling cohérent sur une durée aussi longue? Parce qu'on le sait, le storytelling, parfois, il y a du vrai, puis parfois, on joue un peu avec la réalité. Comment rester permanent dans la durée? Je trouve ça fascinant et je voulais du coup parler d'Opinel ce matin. Opinel, c'est une marque qui est née en 1890 et pourtant qui n'a peut-être jamais été aussi jeune ou dans l'air du temps. Allez, juste un peu d'histoire, je suis obligé parce que là on parle de la Savoie, alors vous le savez, chers amis qui nous écoutez,
il y en a pour un quart d'heure.
Je vais essayer de faire bref, mais jusqu'en 1860, la Savoie, c'est un duché indépendant qui vit des jours paisibles, loin de son envahissant voisin, la France. Et en 1860, la Savoie, elle est annexée par Napoléon III et la famille de Savoie, elle est contrainte de s'exiler dans le Piémont. Ça, c'est l'histoire vraie, c'est l'histoire qu'on ne vous raconte jamais, chers amis. Mais 30 ans plus tard, On est donc en 1890, il y a Joseph Opinel qui invente un couteau qui va marquer à jamais l'histoire de la coutellerie, c'est le fameux couteau Opinel. Il a été donc inventé en 1890 dans un petit village de Savoie à Albier-le-Vieux. Alors sur la lame, on retrouve, qu'est-ce qu'on retrouve ? Les armoiries de la famille de Savoie, la fameuse main couronnée du duché de Savoie. C'est ça l'histoire d'Opinel, c'est ancré sur une région qui à l'époque était un pays. Alors il me fait des grands sourires Camille, mais pourtant c'est vrai. Et la marque Opinel, elle a été officiellement déposée en 1929, elle a connu une explosion quasiment immédiate. Et aujourd'hui, elle est toujours détenue par la famille Opinel, la marque Opinel. Et les sites de production, ils sont toujours en Savoie, notamment à Chambéry. Alors aujourd'hui, c'est pas moins de 5 millions de couteaux Opinel qui sont produits chaque année, ce qui est quand même faramineux. Alors sur les réseaux sociaux, Instagram, c'est quand même pas de, Opinel, c'est quand même pas de la blague. Instagram, c'est quasiment 74 000 followers. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est tout en anglais. Alors c'est un peu normal parce que Opinel est distribué dans 70 pays. Donc marque française, très fortement internationalisée, avec une ambition d'aller faire 10% de leur chiffre d'affaires aux États-Unis notamment. Donc ils sont assez sérieux sur leur démarche internationale. Du coup, tout est écrit en anglais et on retrouve 4 piliers de contenu très nets, très limpides sur le compte Instagram d'Opinel. On parle d'histoire de marque, on parle d'expertise liée à la coutellerie, on parle aussi de l'assiette et de la nature. C'est intéressant à voir et les contenus sont évidemment superbes. Alors en matière d'histoire, eh bien, évidemment, l'histoire de la marque, elle est là. Hein. C'est un peu comme une trame de fond qui revient tous les 12 ou 15 postes à peu près. Hein. J'ai fait le jeu de compter. Et on trouve quoi ? Bah, des belles photos en noir et blanc qui rappellent que cette marque, elle est née il y a quand même plus de 130 ans au cœur des Alpes, c'est fou. Et quand on pense à Opinel, on pense aussi à l'outdoor. C'est vrai que c'est quelque chose que la marque, elle porte en elle, les grands espaces, le contact avec la nature,
le pique-nique,
les voyages, etc. Opinel, c'est une marque non seulement d'histoire, mais c'est aussi une marque d'aventurier, je trouve. Et sur leur compte Instagram, on trouve vraiment ça, hein, avec par exemple des très très belles vidéos d'escapades en Arizona, en Australie, à la montagne, etc. C'est 100% inspirationnel, c'est très très joli. Il y a aussi un autre sujet fort, évidemment, l'expertise qui est fortement mise en avant avec des posts, des stories qui montrent vraiment sans artifice hein, les méthodes de fabrication de ces couteaux. Et là, je ne peux pas m'empêcher de penser quand je vois ça que c'est beau une usine, surtout quand elle est en France, j'ai envie de dire. C'est vraiment beau de voir ça, de voir ces métiers perdurer. Et Opinel le raconte très très bien et notamment sur IGTV où tu as un très beau contenu vidéo avec des vidéos en atelier qui racontent comment sont fabriqués les fameuses lames, etc. Il y a la démo aussi des nouveaux couteaux. Très, très, très beau contenu que propose Opinel sur Insta. Et puis, quatrième et ultime pilier, c'est que forcément, quand on fabrique des couteaux français, eh ben, l'assiette, elle n'est jamais très loin. Opinel, du coup, s'appuie aussi sur les autres icônes françaises, hein, le fromage, le pain, le saucisson, avec ces belles photos d'instants de vie, le casse-croûte, quoi, le casse-croûte à la française. Je trouve que c'est très, très cool ce que fait Opinel. On a quand même bien du mal à penser que cette marque a plus de 130 ans.
Ouais, c'est vrai. Et tu vois, d'ailleurs, tu sais, ils font tous ces nouveaux couteaux en plastique là, manches plastiques, hein, qui sont très jolis. Et d'ailleurs, ils arrivent avec plein de couleurs. Et ils arrivent d'ailleurs à très bien les intégrer dans cette grille, malgré qu'elle soit très vintage, très bois, très repas. Ils rentrent très bien dans la grille. Et du coup, c'est une vraie belle réussite, hein, ce compte.
Ouais. Et puis il y a un travail chromatique. Je suis d'accord avec toi. Il y a un travail sur la couleur, les paysages, le ciel bleu, etc. C'est ultra frais, ultra shiny. Ce compte Opinel, j'aime beaucoup, voilà.
Eh bien, écoute, on est très dans la bouffe hein, ce matin.
On se refait pas, Camille.
je vais donc embrayer sur une marque, une verrerie française, la verrerie La Rochère. La Rochère, c'est une verrerie à l'ancienne, en plein milieu de la Bourgogne, à Passavant-La Rochère. Voilà, je ne sais pas si tu vois.
Je vois pas Passavant.
Donc, ce n'est pas très loin d'ici, finalement. L'entreprise a été fondée en 1475,
wow.
Quand Simon de Tizac, gentilhomme verrier, acquiert le droit de fonder une verrerie au lieu-dit Les Rochiers. La Rochière, c'est donc 525 ans d'histoire séparés par quelques guerres. Et quand tu vas sur leur site, c'est assez marrant de voir. Donc, je ne vais pas commencer comme toi la frise chronologique au début, c'est beaucoup trop long. Mais alors, j'avais lu que c'était 1475, mais je ne m'étais pas bien rendu compte de ce que ça représentait. Et là, je vois usine détruite par la guerre de 30 ans. Je me dis, mais attends, on est en quelle époque là ?
Ouais, c'est dingue.
Donc, 1600, tu vois, la frise commence très jeune. Et depuis, alors je crois que c'est
1600. Alors, 1600... eux, le coronavirus, tu sais, ils ont passé dessus, genre, nous, on a connu la guerre de 30 ans, on n'est pas trop, ça va, on va se remettre.
Ils sont solides économiquement, je crois. Et tu vois dans la frise que depuis 1666, je crois, les fours ne se sont jamais arrêtés. Donc, c'est assez marrant.
Extraordinaire.
Comme histoire, hein. Moi, ce qui m'a tout de suite séduit hein, dans cette marque et dans cette grille Instagram, c'est que ce sont beaucoup de verres très à l'ancienne, aux courbes très droites, très anguleuses, comme on retrouvait chez nos grands-parents, comme on peut voir dans les châteaux, dans les films. Alors, t'as bien sûr des designs un peu plus modernes, mais t'as beaucoup ces verres très droits, un petit peu comme on...
Oui, c'est de la verrerie un petit peu art déco,
ouais. Voilà. On retrouve beaucoup de lifestyle avec des décors toujours très à l'ancienne, bien bossés, façon food design, tu vois. Je trouve ça très joli. Et il y a toujours quand même une pointe de vintage dans la tonalité, dans les couleurs. Et forcément, ce verre moderne et à la fois très vintage est toujours placé dans un décor, toujours bien travaillé. Par-ci, par-là, dans la grille, on retrouve des photos de l'usine et des tours de main réalisés pour les journées du patrimoine, par exemple. Des photos de l'usine aérienne avec... elle a beaucoup changé, notre usine, depuis les années 1400. Donc, c'est tout un mix hein, autour de la verrerie. C'est vrai que c'est... On suit pas forcément ce type de compte Instagram. Moi, je m'amuse pas à suivre des comptes d'assiettes ou autre chose. Mais par contre, on voit que bah, avec Opinel, ça peut fonctionner. Donc, il y a toujours quelque chose à faire autour d'un patrimoine et d'un seul objet quoi. Au final,
mais c'est extraordinaire de penser qu'une marque qui est née en 1475 soit sur Instagram avec le hashtag La Rochère. C'est génial, c'est très beau et c'est vrai que on a de quoi être fier de ces marques françaises. Comme par exemple, tiens, cette marque qui s'appelle Pyrenex. Tu la connais cette marque ?
Eh ben pas vraiment, tu vois.
Tu sais, c'est ces doudounes un tout petit peu bien gonflées là, avec un petit logo très vintage marqué Pyrenex sur l'épaule gauche. C'est une marque française, bien sûr, qui est née en 1859 et qui pourtant reste aujourd'hui iconique et notamment sur Instagram. Hein. Alors, ils se présentent d'ailleurs sur Instagram comme une manufacture de légèreté depuis 1859. Je trouve ça à la fois industriel et poétique. C'est bienvenu. Pyrenex, c'est cette marque française de prêt-à-porter et d'accessoires pour la maison, parce qu'ils font aussi des couettes, spécialistes du duvet. C'est vraiment ça leur spécialité. Et dans la marque, dans les années 80, pardon, la marque était absolument culte. Hein. En gros, tu trouvais du Pyrenex sur les pistes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, elle s'est un peu essoufflée, un peu éteinte. Mais depuis quelques années, elle revient sur le devant de la scène et s'offre une visibilité internationale grâce à ses fameuses doudounes. Et n'en déplaise aux rappeurs US et aux fashionistas japonaises, eh bien Pyrenex, c'est français, cocorico. Tout est fabriqué depuis plus de 160 ans à la manufacture de Saint-Sever dans les Landes. Je trouve ça extraordinaire. Et du coup, Pyrenex ne travaille qu'avec des élevages d'oies et de canards d'Aquitaine, des Pyrénées, du Poitou. C'est du vrai Made in France. Alors sur Instagram, c'est 28 500 followers Pyrenex. Comme pour Opinel, tous les statuts ils sont en anglais. Voilà, ça c'est quand même fou de voir ça. On est marque française, mais déjà internationale, clairement. Pyrenex est distribué dans plus de 500 points de vente dans le monde. Donc forcément, ils ont besoin d'avoir cette stratégie de contenu avec du texte en anglais. Et là, je trouve que le contenu est très, très chic. Hein. Donc contenu vidéo dans AJTélé, magnifique, qui montre notamment la manufacture et cette fameuse mythique machine en bois hein, pour trier et aérer les plumes. C'est une espèce de grande colonne en bois. Allez voir sur leur compte Instagram vitré dans lequel ils balancent des tonnes de plumes de canard. Tiens, Camille nous fait profiter
du son des plumes d'oie qui volaient.
Et pour aérer les plumes, quoi. Donc, machine qui date de 160 ans. C'est quand même fou. C'est superbe. Il y a aussi une highlight story absolument délicieuse où la marque utilise le décor de cette usine historique comme lieu de shooting de sa collection. Je trouve l'idée excellente. hein, comment faire le pont entre mes designs aujourd'hui et mon lieu de fabrication historique. C'est très très bien fait. Puis les questions aussi, forcément, chez Pyrenex, de grands espaces, hein, de nature. C'est une marque qui est née au cœur des Pyrénées et qui est encore au cœur des Pyrénées. Et à ce titre, eh ben, la marque, elle n'hésite pas à publier des photos de paysages. C'est-à-dire, tu n'as pas de produit, tu as juste le paysage au milieu de sa grille comme un espèce de statement. Hein. Nous, ici, c'est les Pyrénées et il n'y a pas de produit, juste un magnifique paysage, la chaîne des Pyrénées. Et au milieu de tous ces shootings de photos de modèles, tu trouves aussi pas mal d'UGC. Hein. Ils ont un truc assez cool avec le hashtag MyPyrenex. Voilà. Et au propos du hashtag MyPyrenex, je suis allé faire un tour, comme ça, un peu par curiosité, sur TikTok, en me disant, tiens, comment est-ce qu'une marque de 160 ans est présente sur TikTok? Et bien, figure-toi qu'elle y est. Alors, pas par son intermédiaire, elle n'a pas de compte officiel Pyrenex. Par contre, la quantité de contenu UGC généré par les utilisateurs sur TikTok est impressionnante. Le hashtag Pyrenex, il est très largement utilisé sur la plateforme TikTok. 417 000 vues pour ce hashtag sur la plateforme. Voilà, fascinant pour une marque qui a plus de 160 ans.
Ce que je remarque aussi et qui est super intéressant, tu parlais de photos de montagne et d'outdoor, hein, c'est que tu as aussi par exemple une photo du Mont Fuji. Au final, c'est un peu nos Pyrénées sont partout, quoi. Nos Pyrénées, c'est notre terrain de jeu, c'est la montagne. Ouais, ouais, on est vendu partout dans le monde et je peux mettre d'autres montagnes en photo.
Et la marque est très puissante et très très sexy au Japon. Hein. Ils ont développé une collection spéciale pour les Japonais avec des designers japonais. Voilà, on a de quoi être fier de nos acteurs français. Qu'est-ce que tu as d'autre, toi?
Eh bien, écoute, moi, je vais te parler. C'est marrant, hein, on parle de montagne. On a fait le tour des montagnes françaises. Hein. On a parlé de l'Ardèche, on a parlé de la Savoie, les Alpes, on parle des Pyrénées. Oui. Et moi, je t'emmène dans les Vosges.
Ah, ben bah voilà, comme quoi. Ben non, mais on se refait pas ça, plus un petit peu de fromage fondu.
Je vais te parler d'une emblème du beau linge, une emblème qui perpétue l'amour du beau linge depuis 1923. Est-ce que tu vois de qui je te parle?
Oui, je crois.
Je parle donc de Lin Vosges. Et je vais commencer avec une citation de Charles Prudent, le fondateur de Lin Vosges, qui a écrit en 1921 « Si invraisemblable que cela puisse paraître, je dois dire en toute sincérité qu'en arrivant à Gérardmer par un après-midi d'août 1921, je ne songeais pas plus à y fonder quelque chose qu'à aller me jeter dans son lac. Une idée me vint subitement, celle de fonder à Gérardmer cette maison de vente au détail qui devrait rayonner sur toute la France. » Visionnaire, le mec. Hein. Il a vu le lac, il s'est dit « je vais monter Lin Vosges ». Lin Vosges qui existe donc depuis 1923. L'amour du beau linge, et tu retrouveras donc le compte Instagram de Lin Vosges, qui retranscrit tout à fait cet amour du beau linge, comme ils disent. Chaque couverture, hein, donne envie de se rouler dedans, chaque oreiller de se poser. C'est très cocooning, tu vas avoir une petite tasse de thé à côté d'un oreiller, ça suffit pour faire un beau post Instagram. Et tu as des highlights, un petit peu comme tu as pu le retrouver chez Pyrenex, qui s'appelle « Chez Lin Vosges » et « Situation », où il raconte le savoir-faire, l'environnement de la marque, le paysage. Je trouve qu'il pourrait même encore plus bosser cette implantation vosgienne. Je pense même qu'il y a des gens qui achètent Lin Vosges ailleurs sans savoir que ça vient des Vosges. Ça paraît tout con.
Oui, c'est
le
possible,
Lin des Vosges.
Hein.
Ouais, ouais. Il pourrait encore plus communiquer dessus. Pyrenex, c'est un très bon exemple là-dessus. Et autre détail plutôt très atypique, et là, c'est marrant que tu aies cité Pyrenex avant. Sur le compte, on a donc des photos de linge, bien sûr, mais qui sont ponctuées de photos de pêche, de muguet, de recettes, des petits points de fraîcheur qui n'ont absolument rien à voir. Si je compte bien les postes, ça vient un petit peu relayer les saisons ou les mois. Mais du coup, quand tu es une marque comme ça, bah, tu peux te permettre de mettre une photo de muguet qui n'a rien à voir avec ton compte pour aérer, pour mettre du joli. De toute
ouais,
façon...
Et puis rapporter c'est un lifestyle, hein, la Vosges,
ouais.
C'est ça que tu défends.
Ouais, ouais. Tu défends ta région et tu viens aussi... bon, après, quand tu es dans le tissu, c'est un peu plus facile parce que ça peut être des textures, des impressions que tu peux retrouver sur tes tissus. En tout cas, très beau compte aussi, Lin Vosges. On vous mettra le lien en note de ce podcast.
Ouais, bah, ça, c'est extraordinaire parce que c'est vraiment la marque de grand-mère par excellence, Lin Vosges. Pour autant, c'est vrai que quand tu es sur leur compte Instagram, eh ben, c'est absolument splendide et très très contemporain, très moderne, très bien fait, très très frais. Alors, il y a un sujet dont je voulais parler aujourd'hui, hein, c'est que quand on existe depuis plus de 100 ans, qu'on a connu au moins deux guerres mondiales, eh ben, il arrive parfois qu'une marque, elle transporte dans ses bagages quelques jolies petites casseroles, en tout cas minima, des anachronismes qui peuvent être compliqué à assumer après. Et ça aussi, je trouve que c'est un sujet intéressant. Et à ce titre, je vais mettre les pieds dans le plat ce matin en vous parlant de Banania. Banania, un héritage vraiment compliqué à assumer pour cette marque qui est toujours existante et qui a été créée en 1914. Vous pouvez les retrouver sur Instagram, @bananiaofficiel. Donc, je disais, la marque, elle a été créée en 1914. Juste un peu d'histoire sur cette marque. C'est au cours d'un voyage au Nicaragua qu'il y a un journaliste français qui s'appelait Pierre-François Lardet qui découvre dans un village une boisson qui est faite avec de la farine de banane, du cacao, des céréales pilées et du sucre. Et du coup, il revient avec ses recettes, il la pique et il la ramène en France et il crée Banania. Voilà, ça c'est la marque. Elle est créée en 1914. La Première Guerre mondiale éclate. Banania devient la boisson concrètement des poilus. La marque envoie 14 wagons remplis de Banania, de poudre chocolatée sur le front pour donner de la force et de la vigueur aux soldats, dont les fameux tirailleurs sénégalais qui se battent sur le front courageusement. Et du coup, pris dans son enthousiasme, Pierre-François Lardet, il demande à un de ses amis, un collègue, Andreïs, de lui dessiner l'un de ces tirailleurs sénégalais pour en faire le symbole de la marque Banania. Et tout le monde connaît ce visuel du tirailleur sénégalais avec son petit chapeau rouge et marqué Banania au-dessus. La marque cartonne. Elle est partout, sur le Tour de France, aux Jeux Olympiques. C'est vraiment une marque iconique en France, mais forcément, les mentalités changent. Et ce qui était un symbole sympathique et un peu nostalgique s'est logiquement transformé en symbole d'une époque coloniale douloureuse. Et aujourd'hui, c'est un fardeau, ce logo Banania, ce symbole du tirailleur sénégalais. Et c'est bien le logo iconique de la marque qui pose problème, pas tellement son histoire coloniale à elle-même, mais plutôt le logo qu'elle transporte et les images qu'elle véhicule avec. Alors, le logo, il a été récemment retravaillé. On y trouve toujours, et ça c'est quand même assez étonnant, une version modernisée du célèbre tirailleur avec son chapeau rouge. Voilà, ça serait intéressant de comprendre comment la marque a décidé de conserver malgré tout ce symbole iconique. Et à l'heure du Black Lives Matter, du hashtag Black Lives Matter, forcément c'est difficile à assumer. Si vous allez jeter, comme je l'ai fait, un coup d'œil à Banania Officiel sur Instagram, c'est 1000 followers sur Insta, donc c'est très modeste. Mais qu'il doit être difficile d'être le community manager de la marque. Les commentaires sont violents. J'aimerais pas être à sa place. C'est dur. Et la marque, elle est vraiment attaquée pour ce logo, pour ce symbole d'une époque coloniale pas flatteuse. Et ce qui est fou, c'est que si la présence de la marque, elle est discrète, c'est 96 posts officiels sur Instagram. Donc c'est une petite présence. C'est pas bien fort. La notoriété de la marque, elle est évidemment bien au-dessus, avec des milliers de publications qui intègrent le hashtag Banania sur Instagram. Là, tu tombes sur des milliers de publications et on y trouve évidemment de nombreux produits dérivés, la fameuse boîte vintage jaune de la marque, et puis aussi d'autres contenus peu flatteurs. Et le plus impressionnant, c'est quand on est sur le compte de la marque Banania et qu'on regarde sur l'onglet, tu sais, avec les posts tagués là.
Ça a été un petit peu nettoyé, j'imagine, depuis que tu m'en as parlé.
Voilà, ouais, mais pas tant que ça, je pense. Et là, il doit y avoir un boulot de CM très compliqué. Voilà, je voulais juste souligner ce truc-là, cette histoire de marque, parce que c'est aussi ça. Parfois, une marque, elle trimballe avec elle une histoire difficile et des anachronismes. Et Banania, je trouve que c'est un bon exemple. Donc, allez, je profite de ce petit message pour souhaiter bon courage au CM de Banania. Ça ne doit pas être très simple en ce moment.
En tout cas, ce sont de très belles marques qui ont traversé le temps, les époques, les générations. Les tendances et on leur tire notre révérence, notre casquette.
Exactement. Voilà. Si vous aussi vous souhaitiez nous parler d'une marque patrimoniale qui attire votre attention sur les réseaux sociaux, venez nous en parler @supernatif sur
Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, TikTok, un peu partout. N'hésitez pas, faites-nous un petit message, un petit coucou, on sera heureux d'échanger avec vous.
Et puis vous écoutez ce podcast dans une plateforme de podcast. Si vous nous écoutez sur Apple Podcasts, chers amis, on vous demande un petit service tout simple. Vous nous mettez 5 étoiles, ça coûte rien. Et puis, si vous pouvez, mettez-nous un petit commentaire aussi. Ça nous fait très plaisir de lire vos commentaires. On vous souhaite à tous un très très bon week-end et on vous donne rendez-vous dès lundi.
Salut à tous.
Salut tout le
monde.
Ciao.